Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gisabelle Coupet-Soubéran, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique à l'Institut Veblen, qui a publié Le pouvoir de la monnaie, transformons la monnaie pour transformer la société, sujet qui nous occupe depuis le début de l'émission aux éditions Les Liens qui Libèrent. Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, et Philippe Trénard, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Il y a Bruno qui dit, il y a un des invités qui a moins parlé que les autres, ça doit être vous, Philippe, je pense. Mais il hésite entre une émission trop technique ou idéologique. Logique. Une autre invitée me dit je suis un peu sous l'eau là ce matin depuis que je vous écoute. Voilà, alors je les réécouterai parce que ça a l'air bien. Comme d'habitude, Gisabelle Coupet-Soubéran tente de répondre à un problème concret de financement de la transition, tandis que ses contradicteurs restent sur des positions dogmatiques.
Oh, oui.
Madame Janson et Monsieur Trénard, qui ne répondent absolument pas au problème, c'est désespérant. Mais à côté de ça, la clairvoyance de Nathalie Janson, merci. On repart sur quoi ? On ne fait pas toute l'émission dessus, mais...
La monnaie, c'est politique, de toute façon.
Là où on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas politique, et c'est malheureusement pour ça.
Essayez d'avoir des propos accessibles pour tout le monde.
Parce
que je comprends quand on me dit qu'on est un peu sous l'eau.
Bien sûr.
C'est pas le cas tous les matins. Hier, on faisait, faut-il encadrer le droit de grève ? C'était plus simple.
Oui.
Là, la monnaie volontaire, c'est un peu...
C'est ce qui nous sépare. C'est-à-dire que pour moi, la monnaie n'est pas un projet politique. Et malheureusement, elle l'est de fait. C'est-à-dire que les États ont toujours aimé avoir la main sur la monnaie parce qu'ils peuvent financer très facilement, c'est ce qu'ils ont fait toujours, leur guerre, ça a été rappelé par Philippe Trénard, mais ça c'est, je veux dire, c'est historique.
Les Britanniques créent le Parlement pour contrôler l'usage de l'argent par la couronne d'Angleterre.
Mais c'est bien ça, qui est c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire que la monnaie ne devrait pas être politique, et c'est bien pour ça que j'adore le projet Bitcoin pour cette raison.
Alors, mais le projet Bitcoin est un projet politique, bien entendu.
Il n'y a pas de politicien dedans.
Mais si,
le côté libertarien.
Qu'est-ce que c'est qu'un projet politique ? C'est un projet de société. C'est ça la politique, c'est une vision du monde, c'est une vision de la société. Le projet Bitcoin, c'est bien entendu une certaine vision du monde. C'est une vision du monde dans laquelle, on compte sur la technologie, on met en avant l'individu, des valeurs anarcho-libertaires, où on rejette la puissance publique, où on rejette la hiérarchie, où on rejette l'État, où on rejette toute forme de puissance
collective. La centralisation plus que la hiérarchie.
C'est un projet politique.
Vous, en fait, Nathalie, vous ne diriez pas la monnaie volontaire, mais la monnaie politique. Si on devait la rebaptiser...
Toute monnaie est politique. La monnaie actuelle aussi est politique.
Non, mais Jean Bodin disait, le souverain fait la monnaie, pas les prix. Et c'est là où je pense que l'arrivée, c'est sans doute...
Mais la politique, c'est pas simplement...
Philippe n'a pas tort sur l'idée que...
La politique, c'est le projet de société. C'est ça, la politique. C'est le fonctionnement de la cité.
Philippe ?
Oui.
Vous avez moins parlé que les autres. Il y a des auditeurs qui se désespèrent de votre dépit.
Voilà. Vous voulez que je commence ? Vous me dites quand je commence ?
Oui, alors allez, top. Maintenant. Top.
Écoutez, moi je suis... C'est très simple. Tout d'abord, si vous avez un tel projet, je puis vous garantir, comme je suis un ancien fonctionnaire, je sais comment ça fonctionne, vous aurez la queue de tous les faillis de la Terre qui partira de Bercy et qui ira jusqu'au Louvre, à peu près tous les jours, attendant avec des projets absolument géniaux et surtout répondant aux critères de non-rentabilité. Ils seront là. Donc, et ce qui est très très clair, c'est qu'un projet rentable, vous pouvez... Et justement, d'ailleurs, politiquement, vous pouvez le rendre rentable en introduisant des coûts pour l'usage de certains biens publics, de certains biens
qui n'ont pas de prix immédiat
sur le marché. Toute l'économie publique qui est fondée là-dessus, et toute l'économie de l'environnement est fondée là-dessus. Et cela permet justement de sélectionner les bons projets des mauvais projets. Les projets qui vont créer de la richesse privée, de la richesse sociale éventuellement, c'est effectivement pas exactement la même chose. Et alors nous dire par derrière que tout ça est politique, il n'y a pas d'opposition, la monnaie a toujours été politique, elle restera toujours politique, les gouverneurs de la Banque Centrale sont toujours nommés par le politique, que je sache, l'objectif de la Banque Centrale est défini par le politique, dire qu'elle a été dépolitisée, c'est tout à fait illusoire. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'a rendue un peu indépendante de façon à ce que le gouverneur de la Banque Centrale ne soit pas dépendant à court terme du résultat de l'élection qui vient dans quelques semaines.
Il y a quand même eu des périodes où il n'y a pas eu de banque centrale, hein, juste pour... les banques centrales n'ont pas toujours été là. Il y a eu des moments où la banque... Alors, effectivement, au-delà de savoir que la monnaie est bien un projet de société, on est d'accord, mais néanmoins, il y a eu plein de périodes où il n'y a pas de banque centrale.
Et pourquoi, mais c'est surtout un projet cohérent avec beaucoup de projets de société. C'est un projet cohérent avec beaucoup de projets de société. En ce sens, tel qu'il est vu aujourd'hui, il est cohérent avec de multiples projets de société.
Projet est cohérent,
mais tous, de différentes majorités. La politique monétaire n'a pas changé avec des gouvernements de gauche, avec des gouvernements de droite, avec Syriza en Grèce, avec des Meloni en Italie.
Non, elle a changé avec Mario Draghi.
Elle a changé avec Mario Draghi, avec Trichet, avec Lagarde. Il y a des changements avec les gouvernements.
On va avancer. Oui. Cette monnaie volontaire, vous en avez visiblement pas mal disserté depuis la sortie du livre. Vous imaginez que ça puisse exister? Franchement, au fond de vous, Gisèle Coupé-Soubéran.
Je crois que ce dont il faut prendre conscience...
On n'a pas le droit de brider la réflexion, et ça, c'est hors de question. Mais est-ce que vraiment ça pourrait être quelque chose qui voit le jour, selon vous?
La monnaie sans dette, la monnaie libre de dette, ça existe déjà, en fait. La Banque Centrale en a déjà créé. Lorsqu'elle a prêté aux banques des liquidités à taux négatif, que les banques ont remboursé moins que ce qui leur a été prêté, la différence, c'est quoi? C'est de la monnaie centrale sans dette. D'accord? Donc ça existe déjà.
C'est
la monnaie
une anomalie.
C'est qu'en fait, techniquement, c'est bien sûr possible que cette monnaie sans dette peut être une nouvelle façon de créer de la monnaie et que ça permet justement d'accroître la capacité de subvention dans l'économie et de ne plus, si vous voulez, subordonner en fait cette capacité de subvention simplement aux capacités d'emprunt des États sur les marchés. Quand Philippe nous dit en fait on peut rendre tous les projets rentables au fond en y intégrant des subventions, où est-ce qu'on les trouve,
des coûts sociaux.
Eh bien, il faut accroître ce pouvoir de subvention, et ce pouvoir de subvention on peut l'accroître en introduisant un nouveau mode d'émission de la monnaie qui d'une certaine manière existe déjà, sauf qu'il n'a bénéficié qu'aux banques. Enfin, faisons en sorte que ça bénéficie, au-delà des banques, à tous les agents qui ont besoin de réaliser des projets de transformation non rentables. Tout ce qui est rentable, on peut le financer autrement.
Non, mais je pense que la période que vous décrivez avec les taux négatifs était une période anormale. Dire que ça a profité qu'aux banques, ça a profité à la stabilité financière et ça a profité...
Oui, mais vous voyez que ça n'a même pas permis de réaliser les investissements de transformation dont on a besoin.
On a été dans une période classique de politique keynésienne, c'est-à-dire où les agents ont une vision négative de la croissance, et pour redresser cette vision négative de la croissance, vous êtes obligé d'avoir très temporairement des taux d'intérêt négatifs. Mais l'objectif, il est extrêmement précis.
Le très temporaire était quand même très long.
Oui, mais c'est pour terminer. C'est pas 10 ans. C'est pas... Le projet écologique, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Moi, ça me fascine.
Non, le projet écologique, ça doit devenir en fait projet de société. Justement, ça aussi, si vous voulez, c'est quand même une vision assez étroite. C'est-à-dire qu'il nous faut réaliser une transition pour pouvoir basculer véritablement vers un autre modèle, vers un autre modèle économique dans lequel on respecte les limites planétaires. On ne les respecte pas aujourd'hui. Vous avez 6 limites sur 9 qui sont complètement exposées.
Non, mais on est tous d'accord. Bon, ce qu'il y a, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas une question sur un an ou deux ans. C'est une question de court terme et de long terme.
Mais c'est
Nathalie,
une question d'éternité.
Est-ce que vous pensez que... Alors, techniquement, Gisèle a raison, c'est possible. Techniquement, c'est possible. D'abord, on peut très bien...
Non, mais ça existait.
Voilà.
Surtout, ça existe déjà. Enfin, la monnaie libre de dette, ça existe
vous
déjà.
Vous pensez qu'on ira vers ça?
Non.
Jean-Pierre Petit était là le jour où il y avait... Lui, il pense qu'on finira par... On finira par faire ça, on finira par refaire du quantitative easing, on finira par faire de l'hélicoptère monnaie, on finira par faire des trucs qu'on pensait impossibles.
Bah, moi, je ne le souhaite pas, en tout cas. Enfin, je ne pense pas qu'on ira vers ça, et je ne le souhaite surtout pas.
Mais pourquoi ? Non,
mais on l'aura, mais dans des conditions assez radicalement différentes de ce que prévoit Jezabel.
À court terme, parce que vous disiez court terme, long terme, la solution n'est-elle pas dans une baisse plus rapide que prévue des taux de la BCE, finalement ?
Mais ça permettra, non. si vous voulez, de rendre non, non. à
surtout
nouveau
pas.
Possible.
Ah bon, alors attendez.
Surtout pas.
Alors, attendez, papa, Jezabel et puis Philippe.
Alors.
Court, hein, parce que, voilà. Oui. Straight to the point. Hein.
Si les taux d'intérêt baissent à nouveau, ce qui est absolument pas certain, ça va vraiment dépendre de l'évolution, de l'évolution de l'inflation. Si les taux d'intérêt baissent à nouveau, ça permettra peut-être de faciliter des investissements, mais encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, même dans la période de taux très bas, voire négatif, nous n'avons pas réalisé les investissements publics et privés nécessaires à la transition écologique. Donc, vous voyez qu'il y a un problème dans les arcanes, en fait, du système monétaire et financier.
Il y a des choix politiques. Hein. Il y a ceux qui réparent le toit quand il fait beau et ceux qui ne le font pas.
Oui, mais il y a, alors, bien sûr, un problème de choix politique et un problème également d'institutions, de moyens pour mettre, si vous voulez, en application ces choix politiques. Ça va de pair.
Là, vous disiez...
Oui, non, non. La monnaie, quand vous créez de la monnaie comme ça, vous ne changez pas la capacité de production de la nation. Le montant de richesse reste inchangé.
Mais c'est quoi
ce
la
vous
richesse
faites, Ce oui, que c'est... vous faites, c'est vous piquer une partie de la richesse qui allait aller vers des projets rentables, en l'occurrence, pour les mettre sur d'autres projets. Donc, quelque part, c'est ça qui se passe. C'est une simple redistribution. Vous prenez de l'argent et vous dites, c'est pas le projet X que je vais réaliser, mais c'est le projet Y que je vais réaliser. C'est tout ce que vous faites. Mais ce faisant, vous n'avez pas changé la capacité de production de la nation.
Mais
c'est toujours la même, à part que vous l'orientez différemment.
Est-ce que c'est urgent de baisser les taux d'intérêt selon vous maintenant au niveau de
l'économie ? Non, il ne faut pas baisser les taux d'intérêt parce que il faut lutter contre l'inflation, il faut s'assurer que l'inflation soit basse de façon à faciliter toutes les anticipations des agents. Moins il y a d'inflation, plus nous savons que les agents ont la capacité de se projeter dans le futur, et notamment de se projeter dans le futur écologique.
On attend d'avoir une inflation sur 12 mois qui retombait à 2 pour décider de faire quelque chose ou alors
pour moi, le 2% est un chiffre raisonnable. Maintenant, je ne suis pas... Ça pourrait être 2,5, ça pourrait être 1,5, ça pourrait être 3. Le tout, c'est d'avoir un objectif de s'y tenir et qu'il ne soit pas élevé de façon à ce que les agents puissent se projeter raisonnablement dans l'avenir.
L'intervention de Philippe, pose une question intéressante. C'est qu'est-ce que la richesse ? Est-ce que la richesse, c'est simplement la richesse marchande ? Qu'est-ce que notre richesse ? Notre richesse aussi, c'est la préservation de la planète sur laquelle on vit, d'accord ? Et pour ça, je pense qu'on a besoin précisément de repenser nos institutions, Nathalie, et en particulier la monnaie.
La baisse des taux, là, j'ai quand même plein d'intervenants qui disent que ça devrait presque être déjà fait.
Parce que on a dans notre, en particulier en France, quand on a des chiffres qui arrivent à la récession, il faut baisser les taux tout de suite. Donc c'est ouais. Je pense que l'opinion majeure va dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'il faut les baisser tout de suite immédiatement ? Effectivement, il n'y a pas. Enfin, ils ont tellement été très bas pendant très longtemps que, honnêtement, je ne sais pas quel est le vrai taux qu'il faudrait. Il y avait eu des articles assez intéressants sur savoir ce qui est aujourd'hui le vrai taux que devrait avoir la Banque centrale.
Le bon taux, vous voulez dire.
Exactement, le bon taux.
Mais qui veut...
De toute façon, on sait une chose, c'est qu'au niveau des États-Unis, ça risque pas d'arriver demain matin, vu effectivement la dynamique qui est assez différente de celle européenne. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, est-ce que la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux, alors que la Banque Centrale Américaine, pour le moment, s'est repoussée. Hein. D'ailleurs, à ce titre, c'est assez drôle de voir que les marchés ont souvent joué perdant depuis plusieurs mois.
Mais bon, la Banque Centrale Américaine, elle attend de voir les chiffres de création d'emplois.
Exactement. Pour ce qui est de l'Europe, à part effectivement les chiffres de croissance qui sont mous, il n'y a pas non plus d'autres facteurs très aggravants pour le moment. Et comme il y a eu, comme je l'ai répété plusieurs fois, des liquidités qui ont inondé depuis de très nombreuses années, je ne sais pas non plus si c'est le moment. On voit bien la bourse est encore à la hausse. Enfin, il y a
délirant.
Plein d'indicateurs qui font qu'on se demande effectivement si on a fini l'assainissement. Et la nouvelle qui peut aussi, où on peut se dire que finalement les taux vont peut-être pas redescendre de si tôt, en tout cas dans un plus long terme, c'est qu'on a tellement besoin de financement au niveau des États dans les années à venir, vu les déficits qui restent et donc la dette qui va continuer, que là aussi on peut se demander si les taux vont vraiment vraiment rebaisser.
D'accord.
Et qui veut la baisse des taux? Les financiers, hein, avant tout. Les banques centrales sont beaucoup dans l'incertitude.
Ils sont contents. Eux, ils ont compris que s'ils demandent beaucoup, et ça, quand ils jouent, ils gagnent. Donc, ils peuvent tenter de
gagner. Il n'y a pas que la richesse, il y a l'avenir du monde, disait Isabelle Coupé-Soubéran. On vient de retirer 1 milliard à MaPrimeRénov. On a modifié le DPE pour essayer de réhabiliter la note des petites surfaces de moins de 40 mètres carrés. Je pense qu'on n'a pas eu complètement tort. Les pesticides, bah là, c'est recul sur recul avec la colère des agriculteurs. La niche sur le gazole non routier qui devait progressivement disparaître. Bon, on est en train de compenser parce que ça passe pas. Il y a des villes qui devaient faire la ZFE, la zone de faible émission, qui reportent parce que la population a du mal à le vivre. C'est considéré comme une mesure anti-pauvre. Celui qui peut pas changer de voiture, il peut plus rentrer en centre-ville. Et puis là, le décret 10 milliards d'euros d'économie publié au JO ce matin. 2 milliards en moins sur les 10 milliards pour le programme écologie et développement durable. Ça vous inspire quoi, Jezabel? On est en train de... fin du monde, fin du mois, on voit que le match est...
Mais vous voyez que...
pas armes égales. Oui. Après, est-ce qu'on peut dire qu'on recule lamentablement? Faut Alors, pas non plus exagérer, je sais pas.
Fin du mois, fin du monde, ça doit justement aller ensemble. Bah oui. La transition écologique, ça doit être aussi une transition sociale. Si les deux ne vont pas de pair, ça ne fonctionnera pas. Et tant qu'on demande effectivement à tous les agents, à tous les secteurs de faire des efforts de transformation écologique sans les accompagner, ça ne peut pas fonctionner. Et vous voyez aussi que, au fond, au lieu d'accroître les moyens permettant d'avancer dans cette transformation écologique, eh bien, on ne fait qu'en supprimer. D'accord ? On les restreint. On ne peut pas, finalement, réaliser cette transformation en l'état actuel du système monétaire et financier.
D'où le pouvoir.
D'où le pouvoir de la monnaie.
Attends, quelqu'un m'a dit « Ah, vous faites la promo du bouquin ». C'est pas pour faire la promo que j'ai dit ça.
C'est pour explorer ce sujet monétaire qui est un sujet indispensable.
C'est la contre-révolution verte, Philippe ? J'ai vu ces titres-là.
Oui. Il y a un backlash. Il y a aujourd'hui un backlash des grands financiers qui voient justement que l'opinion publique est plutôt contre. Elle n'est pas favorable. Voilà. Et qu'au fond, c'est une affaire plutôt d'experts. Nous, experts, n'avons pas bien su vendre la transition écologique.
Et je crois que l'une des grandes erreurs... Nous, experts, n'avons pas su vendre la transition écologique.
Justement, qu'il fallait augmenter le prix des énergies non renouvelables, que ça coûtait beaucoup plus cher, que ça avait des conséquences négatives qu'il faudrait combattre. Et l'un des problèmes de la transition...
Oui, là-dessus, la réponse n'est pas claire. Elle est peut-être mûre dans vos esprits à vous, mais pas dans ceux qui gouvernent.
Voilà, elle est.
Il faut rendre ça acceptable.
Le mélange que propose, par exemple, Jezabel, entre politique sociale et politique écologique et énergétique, est justement catastrophique. Parce que dans l'esprit de l'électeur, dans l'esprit de la personne, il voit les coûts exploser d'un seul coup. Et puis, il est mis en concurrence. Il dit, mais pourquoi vous subventionnez X et pas moi? N'est-ce pas? Donc, la porte de la concurrence est ouverte. Non, il faut bien distinguer les politiques sociales et les politiques écologiques. Pour moi, ce sont deux moments extrêmement différents. Indépendamment de votre politique sociale, vous devez avoir une politique écologique. Après ça, la politique sociale différenciera probablement des politiques plutôt de droite, moins redistributives, plus responsabilisantes, et des politiques de gauche plus de redistributive et moins responsabilisante.
Je suis en désaccord complet.
Qu'on peut arriver au résultat final, on peut arriver à la même chose.
Si on ne fait pas de la transition écologique également une transition sociale, eh bien, on n'y arrivera pas. Les deux vont de pair. Il faut cesser d'opposer, si vous voulez,
pas de transition écologique avec votre transition sociale, parce que les projets de transition sociale, entre guillemets, sont extrêmement différents. Il n'y a qu'à regarder, là, pour le coup, les sondages. Autant sur l'écologie, en principe, tout le monde est plutôt un peu d'accord, pourvu qu'ils ne payent pas. Autant sur le social, tout le monde n'est pas d'accord du tout. Et nous avons beaucoup de projets rivaux.
Mais pourquoi les gens ne veulent pas, justement, aujourd'hui, consentir aux efforts de transition? Précisément parce qu'on ne leur en donne pas les moyens. Il faut que les moyens aillent de pair avec les transformations à opérer. C'est en cela que transition écologique et transition sociale doivent aller de pair.
Non, mais à ce moment-là, juste un point, ce que vous dites, oui, si nous n'achetons pas l'électorat, il ne sera pas pour nous. Ça s'appelle acheter l'électorat.
Mais pas du tout.
Ça, c'est de la corruption.
Donner les moyens aux gens.
C'est ce qu'on appelle la corruption politique. Ce n'est peut-être pas de la corruption légale, ce n'est pas de la corruption, mais c'est de la corruption politique. J'achète l'électorat, comme ça il est pour moi. Regardez la politique de Trump, la stratégie de Trump, elle est très claire.
Mais c'est scandaleux de dire ça.
Mais non, c'est pas scandaleux. Mais si, c'est scandaleux de dire ça. Parce que vous dites, il faut du social. C'est-à-dire, il faut acheter les gens, comme ça ils accepteront.
Pas du tout, il faut accompagner les gens.
Mais non, mais c'est pas vrai, vous changez les mots. Je dis, c'est la même chose, mais pour moi, dans mon esprit, ce que vous appelez accompagner, c'est acheter. C'est équivalent dans ma tête.
Bon, Nathalie, on fait un peu d'euro numérique après. On va prendre l'air avec l'euro numérique, vous allez voir.
Non, juste...
Il sera vert en plus, cet euro numérique.
Juste pour rebondir. Moi, de toute façon, le travers que je pense être dans le livre et qu'on revoit à travers les désaccords ici, c'est qu'effectivement, on veut absolument imposer l'urgence climatique. Je ne dis pas qu'elle n'est pas là, l'urgence climatique. Je dis simplement qu'elle se fait parce que effectivement, on va avoir des gens qui vont vouloir s'en emparer. Et je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen pour qu'ils s'en emparent, la façon dont effectivement Jézabel le suggère. Et je pense qu'effectivement, c'est dans le comportement du quotidien que la transformation en fait des comportements des gens que ça peut se faire. Donc effectivement, je suis plus de l'équipe de ceux qui pensent que c'est le prix qui sera un déterminant dans le déclenchement des comportements. Parce que de toute façon, même aujourd'hui, vous pouvez avoir des comportements tout à fait écologiques, tout à fait vertueux, et il y a plein de gens qui ne les ont pas. Je ne vais pas reprendre mes exemples ridicules, mais qui existent quand même. Il suffit d'aller sur un marché de proximité pour voir la moyenne d'âge de celui qui vient faire son marché. C'est relativement écologique d'aller faire son marché parce que c'est à côté et on ne prend pas sa voiture et on a des produits souvent qui sont locaux. Ben, je peux vous dire que la moyenne d'âge, elle est très élevée. Donc ça veut bien dire que beaucoup de gens, ça ne les intéresse pas. Et que donc, pour les intéresser,
Je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire. Je ne sais pas si c'est que de l'accompagnement financier, mais tout le monde veut du circuit court, de la planète verte, du bio, de l'éco-responsable.
Parce que n'a pas les moyens de le faire.
Et quand vous voyez,
vous êtes déraisonnable quand vous nous dites que il ne faut pas imposer l'urgence climatique ou l'urgence écologique. Nous sommes dans une crise écologique. Nous sommes en pleine crise écologique. Si nous ne faisons rien, nous ne pourrons plus habiter cette planète. Mais
la France et l'Europe ne fasse rien. Quand vous prenez tous les bilans d'action, c'est quand même en Europe qu'il se passe le plus de trucs.
Exactement. On ne fait pas rien, mais on ne fait pas assez.
Oui, d'accord.
On n'est pas du tout sur les trajectoires nous permettant d'atteindre les objectifs qui sont fixés.
Jusqu'à maintenant, les réponses technologiques aux problèmes, elles ont plutôt été données par le marché que par les gouvernements. On regarde tout ce qui est les problèmes de terrain sismique. Il est clair qu'aux États-Unis comme au Japon, on est bien mieux préparé que lorsqu'on a affaire à des pays en développement. Donc, effectivement, j'ai la faiblesse de penser que c'est le marché qui fournit les réponses et pas l'État. Parce que je pense que c'est le marché la matrice du marché est problem solving. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a une solution. Donc, peut-être qu'ils vont pas à la vitesse que vous souhaitez. Et ça, je peux l'entendre. Mais je pense que c'est quand même le marché qui trouvera les meilleures solutions qui pourront être soutenables dans le temps.
Philippe, j'aimerais qu'on dise un mot d'euro numérique après.
Oui. Je crois qu'il faut absolument aller dans le sens que vous indiquiez, c'est-à-dire d'envoyer les signaux prix, parce que de fait, les investisseurs sont réticents parce qu'ils voient pas bien où nous allons. Il vous suffit d'aller dans les campagnes, aller partout. Quand vous dites à quelqu'un de changer sa chaudière, quelle va être sa première remarque? Mais est-ce que vous êtes sûr que ma nouvelle chaudière, elle va pas être interdite dans 2 ans ou dans 3 ans pour des raisons d'ailleurs écologiques? Donc on a un vrai sujet de consistance intertemporelle, de cohérence intertemporelle dans la politique écologique que nous menons. D'où les réticences. Et là, on a un travail de conviction. On n'a pas un travail d'arrosage d'argent. On a un travail de conviction.
Chacun sa magie. Hein. Votre magie, c'est le marché, c'est la technologie.
Vous, c'est la magie.
La magie, c'est la dette publique. Nous, effectivement, on propose, si vous voulez, d'activer davantage ce levier monétaire, mais n'opposons pas tout.
Voilà. J'ai été frappé par un chiffre récemment, parce que vous reprenez les enquêtes d'opinion sur faut-il un monde plus vert, plus court, circuit court, éco-responsable, tout le monde est pour. Prenez le nombre d'abonnés à Temu. le site où vous pouvez acheter des saloperies à moins de 1 euro qui viennent de Chine avec
livraison.
C'est délirant, quoi. Il y a des millions de personnes qui achètent sur Temu des saloperies qui coûtent moins de 1 euro ou 1 euro 50 et qui viennent gratuitement car les frais
de livraison. C'était la même chose avec les supermarchés. Ça faisait rire parce que tout le monde était contre les supermarchés, mais les petits commerçants disparaissaient parce que les gens y allaient, quoi.
La BCE. C'est l'arbitrage économique classique. Si j'ai un produit moins cher, je vais aller vers ce produit le moins cher que j'ai ou que je n'ai pas les moyens.
L'euro numérique, la BCE dit, le projet est en cours. Pour l'instant, c'est très nébuleux pour chacun d'entre nous. Mais l'idée, c'est qu'un jour, à terme, on aura peut-être tous, en tant que citoyens de la zone euro, un compte directement à la Banque Centrale Européenne. Alors, la BCE dit, attention, on ne va pas faire n'importe quoi. Ce sera pour payer. Ce ne sera pas un moyen d'investir. Sous-entendu, je ne vais pas vous retirer, vous, banque commerciale, la production de crédit. C'est vous qui allez garder la production de crédit. Et puis, les banques qui considèrent que finalement, un euro numérique fait qu'on pourrait quasiment se passer d'elles, disent attention, il faut qu'il y ait 500 euros maximum par compte d'euro numérique. La BCE dit, on verra, enfin, on pourrait peut-être imaginer de limiter à 3000 euros. Voilà. En fait, je vous dis ça, mais c'est quoi la question?
Ça peut être un grand projet.
Ça peut être un grand projet.
Ça peut être un grand projet.
On va aller vite, on a deux minutes.
Le problème, c'est que pour le moment, en fait, seules les banques, finalement, on voit au chapitre dans la consultation organisée par la Banque Centrale, alors que ça aussi, ça pourrait, si vous voulez, participer
à un débat national là-dessus.
À un nouveau projet de société. Mais en fait, l'euro numérique, ça permettrait de rétablir un service public de la monnaie qui n'existe plus. D'accord ? Donc ça, c'est important.
C'est-à-dire que si on le veut, on peut donner un hélicoptère monnaie directement.
Alors ça c'est le potentiel en termes de politique économique, en termes de politique monétaire. Effectivement, si demain tout le monde a un compte à la Banque Centrale Européenne, alors dans les moments de crise, eh bien plutôt que de faire du QE qui accroît l'instabilité financière, qui accroît les inégalités, la Banque Centrale peut faire une relance monétaire en versant directement des euros sur le compte de chacun à la Banque Centrale. Ce serait beaucoup plus efficace. Ça, ce serait une opération ponctuelle. Et au passage, ça aussi, ce serait de la monnaie libre de dette, mais ponctuelle.
Là-dessus, alors, une minute, pas deux, ça va être compliqué.
Une minute.
Non, à deux.
Deux, oui, d'accord.
30 secondes chacun.
Les banquiers centraux voient très bien que le bitcoin, tout d'un coup, fonctionne.
Oui, oui.
Et qu'est-ce qui fonctionne dans le bitcoin? C'est simplement l'idée que quelqu'un annonce ex ante combien de monnaie il va créer et ne va pas dépasser ce montant de monnaie créée, ce qui donne une certaine valeur à la monnaie, c'est-à-dire la bijection.
J'ai du mal à faire le parallèle complet
entre les richesses que ça sert à financer et la monnaie et sauve. Donc, il est clair que ce qui fait un peu le succès du Bitcoin, à tort ou à raison, mais ce qui fait le succès, les banquiers centraux vont être très intéressés à se mettre dans la concurrence. Donc, ils vont s'y mettre, et ils vont être concurrents, et ça va être très intéressant. Naturellement, ça pose un problème, c'est qu'il y a une garantie implicite de la Banque Centrale sur le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, qui n'existe même pas pour le Bitcoin.
Les gens, ils vont dire,
ça va être un genre de stable coins, et on sait que tous les crypto-monnaies qui ont posé problème sont des stable coins.
Vous avez mangé à la minute, hein. Tout seul, comme un grand.
Voilà.
Bon, Nathalie, la prochaine fois, on en reprend.
Je suis une frustration.
Oui, on en refait. Objectivement, tu demandes à quelqu'un dans la rue, tu veux garder ton compte dans ta banque commerciale, qui est quand même jamais totalement à l'abri de la faillite, ou tu veux avoir un compte banque centrale?
En tout cas, pour le moment, c'est pas le projet.
C'est un système
à deux niveaux.
Je vous rappelle, après les propos de François Villeroy de Gueux dans Paris Europlace, que j'avais demandé au président de Paris Europlace, Augustin de Romanet, qu'est-ce que vous avez pigé de ce qu'a dit le gouverneur? Et il m'a dit que c'est la question la plus compliquée qu'on m'ait posée depuis 3 jours parce que je suis un peu largué. C'est pour ça que je pense que pour l'instant, en parler qu'avec les banquiers, c'est déjà pas mal. On verra si on en fait un débat national.
Ce serait bien d'en parler avec les citoyens
aussi. Il y avait eu une page dans Le Parisien, j'avais dit c'est un événement. Voilà.
Mais quand il y a eu le lancement 1er novembre.
Mais plus maintenant, c'est fini. Fini. Donc c'est terminé. C'était Jezabel Coupé-Soubert, Nathalie Janson et Philippe Trénard. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.